未来へと続く時の流れはこの旅のあなたの現在の
時行いによって
事情サービスによって様々に枝分かれしてあなたの記憶から消えてしまう。
Samedi 8 octobre 2011, toute la rédaction du journal Le Monde Diplomatique était à Aubagne pour l'ouverture du forum mondial local Mondissimo. Le Monde Diplomatique, journal critique et indépendant, est aujourd'hui publié en 26 langues à travers 72 éditions internationales, dont 46 imprimées et 26 éditions électroniques. Entretien avec Serge Halimi, directeur de la publication du Monde Diplomatique. Alors Serge Halimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, directeur de la publication du Monde Diplomatique. Encore aujourd'hui, le Monde Diplomatique conserve son indépendance grâce à un modèle économique singulier. Comment fonctionne ce journal au statut particulier dans le monde de la presse aujourd'hui ?
Bon, le Monde Diplomatique a comme particularité de disposer de salariés qui élisent leur directeur. Donc, pour être directeur du Monde Diplomatique, il faut d'abord avoir été choisi par les salariés, ensuite validé par l'Association des Amis du Monde Diplomatique, c'est-à-dire l'Association des Lecteurs du Journal, et ensuite soumettre cette candidature à l'ensemble des actionnaires, au nombre desquels il y a Le Monde, qui possède une partie du capital. L'autre facteur qui garantit notre indépendance, c'est que Le Monde Diplomatique ne perd pas d'argent, et que le Monde Diplomatique n'est pas endetté et qu'il dispose de ses locaux, qu'il est propriétaire de ses locaux. Tant que le Monde Diplomatique arrive à vivre de ses ventes et de ses abonnements, son indépendance est garantie. Il est bien évident que si demain le Monde Diplomatique perdait de l'argent, perdait des lecteurs, perdait des abonnés, sa situation financière deviendrait plus difficile. Il devrait se tourner soit vers ses lecteurs, soit si ses lecteurs font défaillance, vers des apporteurs de fonds qui auraient les moyens de peser sur sa ligne rédactionnelle. Pour le moment, cette situation ne s'est pas produite et nous nous employons à ce qu'elle ne se produise jamais.
Donc plus de 50 ans après la création du Monde Diplomatique, le journal se porte toujours aussi bien ?
Toujours aussi bien, ce serait beaucoup dire, parce qu'il y a une période où on se portait encore mieux. Il y a une période, disons, entre 1998 et 2003, où le Monde Diplomatique gagnait beaucoup d'argent parce que sa diffusion était plus importante, que la crise de la presse n'était pas passée par là, qu'il était associé à un mouvement altermondialiste qui était alors en plein essor. Bon, depuis 2003, la situation est plus difficile. Nous sommes en quelque sorte revenus à nos chiffres de diffusion du milieu des années 90. Mais nous assurons en quelque sorte l'équilibre de nos finances.
Alors pour ce samedi 8 octobre 2011, toute la rédaction du Monde Diplomatique était à Aubagne pour Mondissimo. C'était important pour vous de rencontrer les lecteurs et d'être ici présent sur ce forum local mondial à Aubagne ?
Oui, absolument. C'était important d'une part parce que c'est une municipalité qui a toujours été attachée à ce qu'elle appelle la participation citoyenne, ce qui correspond aussi à l'une des orientations rédactionnelles du journal. Par ailleurs, parce que cette municipalité est très attachée à la défense des services publics, que c'est l'un des rares endroits où, par exemple, les transports sont gratuits. Donc il y a des choix qui sont en adéquation parfaite avec notre ligne rédactionnelle. Au demeurant, je crois qu'il est bien, lorsqu'on fait un journal, d'être au contact de ceux qui le lisent, parce qu'il y a un monde entre la rédaction d'un texte par des gens qui connaissent un sujet et la réception d'un texte par ceux qui ne connaissent pas un sujet et qui souhaitent apprendre davantage. Parfois, la communication, la transmission se fait, parfois elle ne se fait pas, et quand elle ne se fait pas, c'est toujours nous qui avons tort. Donc il est bien que nos lecteurs nous indiquent qu'ils n'ont pas compris un article, parce que ça veut dire que notre effort d'information, notre effort de pédagogie, d'explication a été insuffisant.
Alors, Le Monde Diplomatique, c'est le tout premier journal français à s'être doté d'un site internet.
Oui.
Les nouvelles technologies permettent-elles, selon vous, l'émergence de nouveaux modèles économiques viables qui pourraient garantir une information rigoureuse et critique ?
Pour le moment, un modèle économique viable qui serait basé uniquement sur internet, on n'en connaît pas. Même les sites qu'on appelle pure player, c'est-à-dire les journaux qui sont uniquement en ligne, perdent tous de l'argent. Mediapart, rue 89, ils font appel à des gros investisseurs comme la presse écrite. Xavier Niel, qui est propriétaire du Monde, qui est l'un des propriétaires du Monde, est aussi actionnaire de Mediapart et de rue 89. Donc ce modèle économique n'est pas encore trouvé. En ce qui concerne la presse écrite, il y a a priori un danger à ce que les gens cessent d'acheter le journal ou de s'y abonner en pensant qu'ils vont le trouver en ligne, qu'ils vont trouver son contenu en ligne. Et je rappelle à tous vos auditeurs que cette logique-là est une logique qui conduit inévitablement à la disparition du journal. Si demain les gens qui achetaient le journal ou qui s'y abonnaient décident de ne plus le faire parce qu'il est en ligne, eh bien évidemment le journal n'aura plus les finances qui lui permettront d'avoir à la fois un journal papier et un site. D'une certaine manière, il y a une économie qui est un peu particulière où ce sont les lecteurs, les acheteurs du journal papier et les abonnés au journal qui financent le fonctionnement du site. Mais le fonctionnement du site permet de s'adresser à des gens qui n'achèteraient pas spontanément le journal. Donc c'est une dialectique assez particulière où le site procure une caisse de résonance à des contenus qui n'existent que parce qu'ils sont financés par les acheteurs et par les abonnés.
La rédaction du Monde Diplo a pris une part active dans l'essor du mouvement altermondialiste en France. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le mouvement des indignés en Europe ou Occupy Wall Street à New York ?
Si vous voulez, il y a quatre optiques là qui se partagent un peu la scène mondiale. Il y a ceux qui estiment que l'ordre néolibéral est très bien. Il y a ceux qui estiment que l'ordre néolibéral n'est pas si mal que ça, mais qu'il faut un saupoudrage social. C'est ce qu'on appelle le social-libéralisme. Grosso modo, ces deux premières écoles sont associées à l'exercice du pouvoir. On le voit en Europe, où qu'il s'agisse de l'Espagne et de la Grèce d'un côté ou de l'Irlande et du Royaume-Uni de l'autre, vous avez des gouvernements de droite et des gouvernements autoproclamés de gauche qui pratiquent peu ou prou la même politique. En face de cela, vous avez ce qu'on appelle la gauche de gauche, mais qui, elle, se retrouve en quelque sorte obligée, si elle veut accéder au pouvoir, de former des alliances avec des partis qui sont libéraux de gauche et qui ne garantissent pas à cette gauche de gauche que ses objectifs seront réalisés. Et face à ce blocage du jeu institutionnel, les gens qui disent « mais de toute façon, on est coincé », il y a les indignés, les gens qui disent « ça n'est plus possible, il faut que ça change ». Le seul problème, c'est que vous dites que ça n'est plus possible, qu'il faut que ça change un certain temps, et puis très vite, il faut que vous trouviez vous aussi des relais politiques, sinon l'indignation se fatigue. Et vous êtes peut-être plus indigné quand il fait 20 degrés que quand il fait moins 10. Et vous rentrez chez vous, et vous avez le sentiment que finalement, toute cette indignation n'a pas accouché de grand-chose. Donc le problème qui se pose à nous tous, c'est que ce qu'expriment les indignés, qui est naturellement ce que nous partageons, trouve des relais politiques qui permettent à cette indignation de trouver, d'avoir un débouché qui satisfasse ses demandes.
Comment c'est possible de mettre en marge, de créer justement ces débouchés qui permettent des applications politiques de ces indignations ?
Eh bien, c'est l'une des réflexions dans lesquelles on s'engage. Je ne dis pas qu'on a la réponse, sinon on l'aurait déjà brevetée et diffusée partout. Mais on sait en tout cas que les indignés, l'indignation est le produit d'une profonde déception, d'un profond découragement face au système politique tel qu'il est et qui ne produit pas les résultats auxquels aspire la population.
Alors une dernière question, qu'attendez-vous ou que n'attendez-vous pas du prochain G20 qui se tiendra le 3 et le 4 novembre prochain à Cannes ?
Je n'en attends strictement rien. Lorsque le premier G20 s'est réuni, c'était à la fin 2008, j'avais même rédigé un éditorial qui s'appelait « Un G20 pour rien ». Depuis, il y a eu une confirmation que parfois on pourrait regretter, mais une confirmation absolue de tout ce que nous annoncions il y a 3 ans. Vous disiez, voilà, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs, tout va changer, c'est fini, l'argent qui va à l'argent, les discours de Sarkozy qui ressemblaient à des discours de Nelson Mandela dans sa période la plus révolutionnaire. Bon, ça n'a débouché sur rien, si ce n'est une aggravation des politiques néolibérales. Donc on a eu tout ce discours qui consistait à dire c'est le retour à Marx, c'est le retour à Keynes, et puis l'aggravation des politiques qui étaient dans la lignée de Reagan et de Thatcher et qui ont pu se prévaloir de l'aggravation de la dette publique en disant, vous voyez bien, on ne peut plus financer ceci, donc il faut qu'on ampute les budgets sociaux. En d'autres termes, les politiques auxquelles on a assisté se situe à l'inverse même des discours qu'on a entendus en 2008. Et le libéralisme a tiré prétexte de la crise pour durcir les politiques néolibérales qui avaient provoqué la crise. Et le G20 a été la démonstration que ces politiques, qui étaient en quelque sorte l'apanage des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, trouvaient des relais très complaisants auprès de l'Inde, de la Chine, de la Russie, du Brésil, qui n'ont pas cherché à modifier la donne sur ce point.
Alors, est-ce que l'Europe pourrait être une réponse, selon vous ?
L'Europe, c'est la somme des pays européens, donc je ne vois pas pourquoi, quand vous ajoutez Sarkozy et Merkel et Barroso, vous obtiendriez davantage ou mieux que les politiques de Sarkozy, de Merkel et de Barroso.
Est-ce que vous pensez, monsieur Halimi, que les populismes ont de beaux jours devant eux en Europe ?
Là, je ne peux pas vous répondre en 15 secondes parce que je ne sais pas ce que veut dire le terme de populisme. S'il y a un terme qui fait partie du verbiage journalistique et qui n'a absolument aucun sens, c'est celui de populisme. Le populisme, c'est le discours populaire que les journalistes ne partagent pas, donc qu'ils stigmatisent en le qualifiant de populisme. Je me souviens très bien qu'au moment du référendum de 2005, les partisans du non étaient qualifiés de populistes, dès lors que les journalistes, qui par définition détenaient la vertu et la raison, étaient presque unanimement partisans du oui. Donc je pense que ce terme de populisme doit déjà être très largement déconstruit. À l'origine, le populisme, ça n'était pas une insulte, c'était une école littéraire qui consistait à être plus soucieuse des intérêts populaires. Il n'y a rien de criminel à être plus soucieux des intérêts populaires. Mais c'est devenu une forme de stigmatisation. Alors, si le populisme, c'est une stigmatisation, je ne peux pas répondre à votre question. Si par populisme, vous voulez dire être plus proche des intérêts populaires, j'estime qu'il est temps de s'y mettre.
Le Forum mondial local Mondissimo, c'est du 8 au 15 octobre 2011 à Aubagne. Retrouvez toute la programmation sur www.mondissimo.fr. Une interview à retrouver sur radiogrenouille.com.